Parlons-en sans tabou avec le rave Shalom Guenoun.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons-en sans tabou avec vous comme chaque semaine, Shalom Guenoun, pour vous accompagner pour de nouveaux sujets, j'espère percutants. Cette semaine, j'aimerais qu'on aborde ensemble le sujet du Shabbat. Difficile pour certains, ennuyeux pour d'autres. Enfin, le Shabbat n'est pas une mince affaire pour tout le monde, alors que Dieu nous le présente comme étant un cadeau de taille dans sa Torah. Serions-nous passés à côté de quelque chose ici? Serions-nous passés à côté de la vraie valeur? Essayons de comprendre les dessous du Shabbat, son vrai fondement, et à la fois à travers des textes, dans ce que nous comprenons du sens de cette mitzvah, de manière pragmatique, peut-être que nous arriverons à nous renforcer et même ouvrir de nouveaux angles à certains, dans le but de qu'ils se décident à faire le Shabbat, à pratiquer, à se délecter de ses délices, qui sait. Pour nous joindre et nous soumettre vos sujets, c'est radio@torah-box.com. Je vous retrouve tout de suite après la pub.
On se retrouve tout de suite pour parler sans tabou avec le rav Shalom Guenoun.
Organiser un cours avec un rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée Juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce des vrais Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishmant, mizvota, de garder le mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'Halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.
Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Guenoun.
Bonjour à nos chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur le plateau de Parlons-en sans tabou. Alors en parlant de tabou, on entend souvent que le Shabbat c'est dur. Se couper du monde, de ses amis, des réseaux sociaux, parfois c'est la Ligue des Champions qu'on rate. Enfin toutes sortes de raisons qui feraient du Shabbat, qui feraient que le Shabbat serait vécu comme un poids plutôt que comme quelque chose d'une espèce d'allégresse. Outre la déconnexion, le Shabbat implique toute une batterie de lois qu'il n'est pas évident de respecter. Et puis après tout, c'est un jour de repos, alors pourquoi tant de contraintes, diront certains. Cela ne me fatigue pas de cuire un œuf. D'autres diront que la télé est leur plus grand kiff. Et comme Shabbat est normalement mis sous le signe du oneg, de l'honneur, rien de mieux qu'un petit programme télé. Il y a quelque chose qui nous échappe dans le Shabbat. Comment se fait-il qu'il y a tant de juifs croyants? Car comme je ne cesse de le répéter, la croyance n'est pas un choix, c'est une évidence logique qui s'impose à l'esprit rationnel. Mais je veux dire, comment se fait-il qu'il y a des gens, des juifs, qui se disent croyants et qui ne respectent pas le Shabbat, qui n'y arrivent pas? Je pense qu'une des raisons fondamentales est qu'ils n'en connaissent pas le sens. S'ils connaissaient tout ce que ceux qui respectent le Shabbat connaissaient, peut-être que ça serait différent. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils respectent le Shabbat, et c'est déjà tout à leur honneur de respecter le Shabbat comme étant un commandement du roi. Alvaï qu'on arrive à faire tout ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne respecte pas parce que Dieu nous l'a imposé comme étant notre maître. Ce serait déjà quelque chose d'immense. Mais pour ceux qui n'arrivent pas dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là, il faudrait peut-être les aider d'une autre manière. Shabbat est vu pour la plupart comme une somme de lois contraignantes. Un jour où il est interdit on ne cuit pas, on ne trie pas, on n'allume pas l'électricité. Alors c'est vrai que vu comme ça, le Shabbat ne donne pas vraiment envie. Si on nous expliquait le sens de nos actes, les raisons profondes de nos agissements, nous verrions que le Shabbat, en réalité, n'est pas de ne pas faire telle ou telle chose. C'est bien plus que ça. Pour ça, revenons à la source. Quelles sont les raisons fondamentales du Shabbat, exprimées dans la Torah? Pourquoi le faisons-nous? Les textes nous disent, et c'est explicite dans le Chumash, que le Shabbat est un témoignage de la création par Dieu en six jours. En d'autres mots, que le monde fut créé, qu'il n'est donc pas éternel, car il est le produit d'une création. Plus sensiblement, Shabbat vient nous apprendre donc que Dieu existe. Nous témoignons de l'existence de Dieu tous les samedis, c'est-à-dire que tout d'abord la pratique du Shabbat nous inscrit comme témoin de l'existence de Dieu et de son unicité, comme nous le verrons plus tard. Déjà, cette mitzvah n'est pas comme les autres. Elle concède, en quelque sorte, au maître du monde sa vraie place de maître de tout. Et ça, par notre respect de la mitzvah. De ce fait, elle nous rend, en quelque sorte, ses ambassadeurs sur terre, ses chevaliers. Essayons de comprendre un peu comment et pourquoi. Il est admis dans les axiomes de philosophie que toute chose ayant un début a nécessairement une fin, et qu'à l'inverse, toute chose n'ayant pas de fin n'a nécessairement pas de début. Si le monde s'acheva le sixième jour, ça signifie qu'il eut un début, donc, et qu'il n'est pas éternel. En d'autres mots, il est le fruit d'une création qui, partie d'un point qui n'existait pas au préalable, a émergé, ex nihilo. Contrairement à la croyance des Grecs qui disaient que le monde était éternel, kadum, le judaïsme a toujours dit que le monde a été créé par HaKadosh Baruch Hu, et qu'il est une entité finie. Donc aujourd'hui, c'est un fait corroboré par la communauté scientifique avec l'observation via le satellite Kobe, par exemple, de l'expansion galactique qui déboucha sur la compréhension qu'au préalable, tout était contenu dans un petit point microscopique qui émergea du néant, la fameuse théorie du Big Bang, c'est-à-dire une gigantesque source d'énergie qui se transforma en matière, comme nous le savons depuis 65. Pourtant, pour nous, le fait que un point a émergé du néant absolu, duquel miraculeusement est né l'univers, implique un autre axiome de philosophie, et que toute chose a une cause. Donc, une création est nécessairement un créateur, car elle a une cause. Il en va de la logique élémentaire, d'ailleurs. Kurt Gödel, comme j'aime à le rappeler, disait que, étant donné que le monde est parachevé par des limites matérielles, donc nécessairement, celui qui l'a fignolé, qui l'a ajusté, est quelqu'un, un être, qui est en dehors de ses caractéristiques matérielles, liées à l'espace et au temps. Donc, Dieu, créateur du monde, qui a fait émerger le monde du néant, est nécessairement éternel. Donc nous avons là deux indications, que la première, que l'univers fut créé, de par sa limitation, le second, son apparition. Mais il y a encore une autre facette dans ce témoignage que nous faisons sur Dieu, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Je vais essayer d'imaginer la chose pour introduire mon propos. Lorsqu'un artisan construit une table, il y a des matières premières, il y a du bois, des vis, etc. Et l'artisan se sert de ces matières premières pour construire sa table, qui, une fois mise sur pied, tient d'elle-même. Mais quelles sont les matières premières que Dieu utilisa pour construire l'univers? En réalité, il n'y en avait aucune, puisque rien n'existait. Donc contrairement à une table qui peut tenir par le biais de ses matières premières, l'univers ne peut absolument pas tenir sans l'intervention divine à chaque instant. Comme ce que le verset dit. Amechadesh betuvo bechol yom ha'aseh bereshit, celui qui fait naître, qui renouvelle à chaque instant la création. Donc Dieu est en train de nous faire vivre à chaque instant. Comme si quelqu'un voudrait créer une balle par le simple fait de sa concentration, sans le moindre intermédiaire. Elle proviendrait tout bonnement de sa concentration. Si la personne lâchait un instant sa concentration, son attention, tout redeviendrait au néant absolu. Dieu, il est nécessaire, il est élémentaire, je veux dire, il est logique de comprendre que du fait que Dieu implique un monde qui vient du néant, sans intermédiaire, donc que Dieu le maintient à chaque instant. Donc nous avons ici une création qui s'acheva au sixième jour, qui veut dire, signifie, qu'elle n'est pas éternelle, qu'elle a un créateur. Étant donné que nous voyons une création, nous cherchons sa cause, Dieu. Étant donné que la création est limitée, celui qui la créa est illimité, Dieu. Et tout ça, c'est ce que nous témoignons à l'humanité tout entière par notre respect du Shabbat. Le Shabbat est une sorte, en quelque sorte, une sorte de, comment dire, de quelque chose qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les textes disent qu'on s'associe à la création en respectant le Shabbat. Pourquoi ? Étant donné qu'on témoigne en réalité de l'existence de Dieu et que le but de la création fut que toutes les créatures connaissent et sachent l'existence de Dieu, des Juifs qui témoigneraient du Shabbat par leur respect de ses lois et par le fondement, le sens qu'il implique, témoigneraient à toute l'humanité qu'il y a un bien là, un Dieu qui gère le monde dans son unicité. Et par là, nous nous associons au but divin. Essayons de comprendre un peu plus profondément l'essence de Shabbat. Nous avons dit que l'essence de Shabbat est en réalité dépend de la sanctification du nom de Dieu. Nous grandissons son nom. Nous faisons apprendre son identité, en quelque sorte, à l'humanité tout entière. Par là, nous nous faisons ses associés. Nous sommes donc déjà dans un esprit de grandeur, une fois Shabbat rentré. Mais cela n'est pas tout. Certains se demandent en quoi toutes ces lois qui sont cuire, faire des nœuds, trier, ou toutes les autres 39 travaux interdits et leurs dérivés, gênent notre repos. Nous devons nous reposer, car Hachem, en quelque sorte, s'il est permis de s'exprimer ainsi, s'est reposé au sixième jour, témoin de la finalité du monde, en quelque sorte. Mais pourquoi dois-je me reposer avec toutes ces contraintes-là ? Cela ne nuit pas à mon repos, en quelque sorte, dirait-on. Pénétrons plus profondément la définition du Shabbat et révélons ses secrets. Pour comprendre les mélachot, en réalité le repos qui nous est exigé à Shabbat, il faut bien comprendre que nous témoignons par notre repos du repos divin. Quel était le repos divin ? Nous comprenons tous que Dieu se reposa le septième jour. Et nous savons tous que Dieu n'a pas besoin de repos, évidemment. Alors il y a quelque chose qui demande d'être dévoilé ici. Dieu, nous disent les textes, se reposa pour nous dire qu'il faut se reposer, en réalité. Car il acheva sa création. Là aussi, il n'avait pas besoin de l'achever en six jours. Il aurait pu l'achever en un seul jour. Mais comme la Mishnah le dit, c'est pour donner du mérite à ceux qui ont maintenu le monde et qui ont grandi et fait grandir le monde, qui s'est créé en six jours et pas en un. Et à l'inverse, c'est pour payer les fautes de ceux qui ont assombri un monde qui a suscité de l'effort. En tout cas, Dieu se reposa au final. Que ce soit pour nous, transmettre un message ou pour que nous transmettions un message au travers de son repos, Dieu se reposa. Il y a une question fondamentale qui se pose. Si Dieu se reposa, en quelque sorte, il n'agit pas, comment cela coïncide-t-il avec le fait qu'il qu'il est mechadesh betuvo bechol yom ma'aseh bereshit, que Kadosh Baruch Hu influe dans le monde et le maintient à chaque instant. Il se reposa ou il maintient le monde? Il faut comprendre quelque chose là. Il y a une espèce de paradoxe. Si Dieu se reposa, donc il n'agit pas, et s'il n'agit pas, le monde ne puisse se maintenir. Pourtant, il s'est maintenu. La raison est qu'en réalité, Dieu s'interrompit de créer le septième jour, pas de maintenir le monde. C'est précisément ce que nous faisons, nous aussi. Nous nous abstenons de créer. C'est ça que Dieu nous dit, nous témoigna par son, en quelque sorte, son repos. Les 39 travaux interdits sont à l'image de ceux achevés par Dieu lors de la création. Ce sont toutes des créations. À Shabbat, nous ne créons pas. Nous ne reposons pas. Nous ne créons pas. Nous nous reposons de créer, étant donné que nous sommes des êtres à l'image de Dieu, qui ont la possibilité de créer. Shabbat, nous ne créons pas. Alors effectivement, cuire s'avère être parfois un manque de repos. Des fois, c'est même jouissif de faire tel ou tel acte, tel ou tel melacha. Et elle ne contrarie pas le repos, certes, mais elle contrarie la création. Et à Shabbat, nous témoignons par notre repos le fait que nous nous arrêtons de créer. Et chacune des melachas, cuire, c'est-à-dire de faire passer un aliment de cru à cuit, donc le rendre comestible, nous avons créé une certaine entité, un certain élément. Quelque chose de nouveau est apparu. Et ça, à Shabbat, nous ne le faisons pas. Donc nous avons ici Shabbat comme étant quelque chose qui nous élève. Qui nous élève d'un côté du point de vue du témoignage que nous témoignons vis-à-vis de Dieu pour le Shabbat et de ce que cela implique pour nous. Il y a là des hommes qui se font les associés de Dieu, et il y a là des hommes qui connaissent et qui comprennent leur potentiel de création, leur potentiel divin qu'il y a en eux. Nous allons voir ensuite les raisons un peu plus pragmatiques du Shabbat, tout de suite après une page en musique. Je vous retrouve à l'instant. La 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 la, inshallah, inshallah, la 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 la, inshallah, inshallah, la 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 la, inshallah, inshallah.
Shining.
Voici pour la seconde et dernière partie de notre émission, où nous allons toucher aux choses, aux éléments pragmatiques du Shabbat, sans quoi il nous élève, en quelque sorte, de tous les points de vue. L'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié, dit le verset. Ce verset à lui seul suffit à nous faire comprendre la grandeur du cadeau qui nous a été donné. Un jour béni par le Tout-Puissant. Shabbat est un jour saint qui contient en lui un avant-goût du monde futur, comme les textes le disent. Mais Aïn Olamaba. Mais Dieu se soucie aussi de notre bien-être dans ce monde-ci, de notre psyché, de notre physique, de notre équilibre. Pour preuve, de nombreux médecins et de renommée internationale se sont penchés sur les bienfaits d'un repos hebdomadaire et au contraire, sur les effets néfastes d'une vie dénuée de ce repos régulier. Le docteur Hagel de Bâle met en cause la relation directe entre l'absence de repos hebdomadaire et la dépression nerveuse. Il en va même dire que cela cause serait un terrain propice au suicide. C'est-à-dire qu'être dans un rythme effréné constamment sans se reposer une fois par semaine, sans ne pas lâcher prise, cela peut créer des burn-out. Le docteur Niemeyer a mené une étude sur l'ensemble du monde salarial, employés de bureau, ouvriers, les cuisiniers, tout y est passé, constata que le surmenage serait une cause majeure d'anémie chez les femmes et de tuberculose chez les deux sexes, les hommes et les femmes. Le docteur Musset affirme quant à lui que le repos hebdomadaire augmenterait l'espérance de vie de 14%, soit 7 ans sur 50 ans. Bon, évidemment, tout est défini par Kadosh Baruch Hu, décrété par lui, mais il nous a donné les kelim, les outils pour vivre mieux. D'un point de vue sociétal, le non-respect du Shabbat, du repos hebdomadaire plutôt, entraînerait la diminution de la natalité, ainsi que l'affirme le journal des débats en 1868. C'est aussi le rapport du fameux Dalloz au Conseil supérieur du travail le 8 juin 1901, qui fait état d'une perte de la fécondité liée au non-respect du repos hebdomadaire. C'est au vu justement de ces constats que la France promulgua le 13 juillet 1906 la loi sur le repos hebdomadaire obligatoire. J'étais sur le site officiel des services publics de la République française, le service-public.fr, pour y voir un peu comment ils définissaient le Shabbat. Et je me suis retrouvé face à un Shulchan Aruch. Il y a marqué « Il est interdit de faire travailler un employé plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives. » Un vrai Shulchan Aruch. Il a fallu que les hommes soient arrivés par eux-mêmes à cette description, en quelque sorte, du Shabbat, au fait de comprendre que le Shabbat est salvateur tant pour leur psyché, tant pour leur physique, tant pour leur fertilité, chose que Kadosh Baruch Hu nous a donné dans son cadeau. Alors certains, ils voient là une déconnexion, ils voient là quelque chose d'obscur, de replié sur soi, alors que nous voyons qu'il y a des effets positifs sur la santé mentale, sur la santé physique. Et outre ces effets positifs, il y a un renforcement des liens sociaux dans le Shabbat. Tous se retrouvent ensemble, loin des dérangements et des outils multimédia, et de la société, et de son brouhaha. Dans les quartiers religieux de Jérusalem, par exemple, les rues sont désertiques. À part quelques besoins, il y a aussi des non-juifs, etc., des gens qui ne savent pas. Mais la majorité des rues sont au calme. Donc on a un calme. On mange bien, on est bien habillé. On est après la semaine, on ne peut même pas projeter. Parce que la halakha nous impose de ne pas parler des choses de la semaine, et pour les grands niveaux, de ne pas y penser. Donc nous sommes dans un cocon familial, dans lequel nous nous retrouvons avec parfois nos invités, notre famille, dans lequel il y a une sérénité, une ambiance qui baigne paisible. C'est l'esprit du Shabbat qui laisse aussi respirer nos neurones de toutes les connexions en tout genre, de toutes leurs ondes, le tumulte de la rue, les ambitions du futur et leurs tourments. En soi, le Shabbat est un retour à soi, dans le calme le plus pur, et à sa famille. Combien sommes-nous suscités par mille et une choses durant la semaine? Combien sommes-nous tiraillés à droite à gauche? Combien devons-nous travailler? Et combien, en résultat, ne voyons-nous pas nos femmes, ne voyons pas nos enfants et ne nous voyons pas nous-mêmes? Car le Shabbat, au-delà d'être un lien avec Kadosh Baruch Hu, c'est un lien avec soi-même. On a le temps de réfléchir, on a le temps de se parler, on a le temps d'avoir après une Seudat Shabbat avec lumière tamisée. Quand tout le monde est parti au lit, tout le monde est parti se coucher, d'ouvrir un petit livre, fatigue ou pas. Tout dépend de chacun, de la dose d'énergie qu'il a réussi à mettre dans ses batteries, ouvrir un livre, s'asseoir sur le canapé après avoir bien mangé, lire une parole de Moussard, et s'endormir dans le livre, s'il n'y a pas de problème. Mais ce moment-là, où le monde s'arrête, où les enfants jouent devant nous, où on ne peut pas être dérangé ni par des WhatsApp, ni par des commentaires, ni par quoi que ce soit. On est là avec nos femmes, nos enfants, et le lendemain, on dort bien. On se lève, on va à la synagogue. On rencontre les gens qui vivent dans le même contexte que nous. Donc, ils ont une. La Gemara dit qu'il y avait certains sages qui avaient un éclat du visage différent, Shabbat, que les autres jours de la semaine. Après, on revient manger à Shabbat. Et là, il y a trois repas que Rav Nachman disait qu'ils sont trois grandes mitzvot. Il disait, donnez-moi le salaire de ces trois mitzvot que j'ai fait. Car en réalité, le repas de Shabbat, qui se fait avec toutes ces halachot de commémoration de la manne, qui sont en soi des commémorations, chacun des actes, au-delà du fait de nous plonger dans une atmosphère qui ressemble au monde futur. Shabbat est aussi une édoute, un témoignage de la véracité de la Torah, car tout un peuple, des millions de personnes ont fait Shabbat depuis toujours. Et jamais personne n'a transgressé quoi que ce soit, et nous avons le témoignage actif, physique, de gens qui l'ont, durant toute l'histoire, respecté, et même au péril de leur vie. Mais Shabbat, c'est les trois Seudot. On est avec nos enfants, on chante un peu, on écoute les enfants qui disent des divrei Torah, on complimente Madame pour ce qu'elle a fait de bon. On dit soi-même un Dvar Torah. Parfois, moi je vous dis ce que j'ai appris de chez mon Rav, c'est j'ai pris cette habitude de lieu, que ce soit un Dvar Torah, vous savez, monologue, et à la fin on s'endort tous, parce que ça part dans les hommes contents, je leur pose des questions sur les sujets qu'ils ont étudiés dans la semaine, sur la paracha. Dis-moi, Pharaon, quel âge avait-il? Comment je l'ai rencontré? Je ne sais pas, d'accord. Combien mesure est-il? Ça, tu le sais. Et il y a une espèce d'une émulation comme ça dans les informations de la Torah qui baignent au sein de la table, qui donnent la mitzvah du Dvar Torah, et en même temps font que le Dvar Torah est vivant. Moi, par exemple, j'étudie les halakhot de Shabbat. Baruch Hashem, que je beaucoup a fait de moi être enseignant dans un collège de Shabbat, justement. Donc, je connais pas mal de sujets. Et je parle à mes enfants qui sont 8, 7 et 6. Hein. Et encore moins que ça. Et je leur parle de la Melacha. C'est quoi Borer? Tu sais, c'est quoi Borer? Par exemple, trier. Trier, c'est quand, par exemple, de séparer le mauvais du bon. Mais trier avec toutes ces incontances. Trier dans ce cas-là. Et je leur donne des cas clairs. Dis-moi, chérie, si tu as deux aliments, mais tu n'as pas de mauvais, tu n'as pas de déchets dans l'assiette, mais tu veux trier l'un de l'autre, ce serait possible ou pas? Alors elle me dit, papa, tu m'as dit des déchets. Tu ne m'as pas dit pas des déchets. Je lui dis, oui, alors sache que il y en a, qui disent, donc Tosfot, le Rach, le Shulchan Aruch, qu'un aliment que je n'aime pas, que je ne veux pas mettre dans mon assiette, est considéré comme un déchet. En passant, ça nous apprend quelques petites halakhot. Donc je dis à ma fille, maintenant, si tu as des carottes et des petits pois, et qu'il y en a un aliment que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas, que tu veux enlever de l'assiette, c'est possible? Elle me dit, non, c'est assour. Et mon autre fille te dit, mais non, papa, je le veux. Alors l'autre, elle lui dit, mais t'as pas entendu que c'est considéré comme si tu n'aimais pas? Ah bon, pourquoi? Mais c'est un aliment, je pourrais le manger. Donc là, on parle de 8 ans et 6 ans. Alors, maman qui dit, effectivement, tu pourrais le manger, mais aujourd'hui, tu ne l'aimes pas, tu ne le veux pas. Et d'ailleurs, on parle de quelque chose que tu ne pourrais pas manger parce que tu ne l'aimes pas. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle un déchet, parce que pour moi, c'est un déchet, exactement. Et on arrive à faire dire à une fille de 6 ans, une havana, une compréhension d'Arishon, du Rabbi Nouchanel, qui dit que je peux considérer moi-même subjectivement quelque chose, un déchet, en réalité. Donc voilà. Mais j'essaie de passer les Shabbatot avec des halachot, avec des divrei Torah. C'est plus attractif. Après, il y a les chants. On chante avec les enfants. Chacun chante. On essaie d'avoir... papa, il a toujours les mêmes airs. Toujours la même chanson. Donc on essaie de me donner des nouvelles chansons que je sais de moi qui n'ai pas du tout d'oreille. Mais ça rentre dans le son du Shabbat. Il y a les habitudes du Shabbat. Papa qui chante toujours la même chanson. On mange les mêmes plats, etc. Shabbat, c'est aussi le moment où nous voyons que Hachem nous met dans un halo de paix dans lequel chacun de nos actes doit être pesé. Nous devons peser nos actes. Est-ce que ça c'est boutard? Est-ce que ça c'est assourd? Donc ça nous porte naturellement, inconsciemment et naturellement, à avoir la conscience de chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacun de nos actes. Et en réalité, Shabbat fait que nous allons réutiliser cette faculté-là, à être conscient de nous-mêmes. Donc, Shabbat en deux mots, et il y a tellement à dire sur la profondeur de Shabbat et sa beauté. Shabbat, c'est de témoigner à Dieu que nous sommes ses ambassadeurs dans le monde. Shabbat, c'est de témoigner de l'existence de Dieu. Shabbat, c'est de se retrouver en famille. Shabbat, c'est de se reposer. Shabbat, c'est de faire un retour à soi. Shabbat, c'est avoir une vision d'un monde parfait, même si parfois il ne l'est pas, mais d'un monde parfait, où tout a été amené. On s'habille bien, on mange bien, on est en calme et en repos, et c'est pour ça que sur Shabbat, il est dit « Ki hi mekor haberacha » Le Shabbat est la source de toutes les brachot. Voulez-vous une bonne semaine? Soyez mashkia dans le Shabbat. Efforcez-vous et investissez vos efforts dans le Shabbat. Une bonne semaine réussie, c'est un bon Shabbat réussi. Un bon Shabbat réussi implique une bonne semaine réussie. Merci à vous. J'espère qu'on a pu soulever quelques difficultés concernant le Shabbat, ouvrir de nouveaux angles, en tout cas pour moi, ça m'a aidé. Pour nous joindre et proposer d'autres sujets à développer, radio@torah-box.com, je suis à votre service, à votre disposition. Vos sujets sont les miens. Et pour l'heure, je vous souhaite à bientôt, portez-vous bien et à la semaine prochaine. I'm
יהי רצון מלפני אבינו, אבינו שבשמיים, שתתמלא רחמים על החתן והכלה היקרים. יהי רצון מלפני אבינו, אבינו שבשמיים, שתתמלא רחמים על החתן והכלה היקרים. חיים של שלום, חיים של שלווה, חיים של אושר ואושר, חיים של כבוד,
חיים של שלום.
יהי רצון מלפני אבינו, אבינו שבשמיים, שתתמלא החתן והכלה היקרים. חיים של שלום, חיים של שלווה, חיים של אושר ואושר,
shine.